Ce matin, on continue notre série qu'on a débutée la semaine dernière, série de deux dimanches sur la lettre aux Colossiens. Alors qu'on lit ensemble la lettre de Paul aux Colossiens et qu'on essaie de comprendre non seulement ce que Paul essaie de dire aux gens de cette époque, mais aussi qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui à travers ce texte inspiré. En petite remise en contexte, Paul est en prison. Probablement à Éphèse, c'est pas très clair, mais on croit qu'il était à Éphèse à ce moment-là. Mais il écrit à l'église de Colosse, hein, une jeune église où il n'a jamais été, mais dont il a entendu parler lors de la visite d'un chrétien de Colosse, Épaphras. Et Paul apprend que la jeune église va bien, grandit dans l'amour, la foi et l'espérance, mais qu'il y a des faux enseignements, des fausses pratiques qui se propagent un peu dans l'église. Et Paul décide donc de leur écrire. Pas simplement pour attaquer les faux enseignements, mais pour leur rappeler la vérité. Jésus-Christ est au centre de l'Évangile. C'est lui qui règne sur le cosmos, c'est lui qui règne sur l'Église, c'est lui qui règne sur ma vie. Tout est par lui, tout est pour lui, tout est en lui. Et à cause de l'œuvre de Christ à la croix, de sa résurrection, on peut déclarer avec Paul, « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Et c'est ce que Paul explique dans la première partie de la lettre, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous étiez absent et que ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter en ligne sur notre Facebook ou sur notre YouTube. Mais le fait que Christ règne sur nos vies, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une déclaration « Christ règne », mais c'est quelque chose qui doit changer nos vies. Tout change à cause de Christ. Et dans la deuxième partie de sa lettre, Paul va expliquer comment la vie d'un chrétien est totalement changée à cause de Christ. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans nos relations que Christ règne, qu'il est mort et ressuscité? Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, vos applications. Colossiens 2, à partir du verset 16. Colossiens 2, verset 16, Paul écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à cause d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, était l'homme et sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. » Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tisse la croissance que Dieu donne. Verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait l'usage. » Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. La première chose qui change quand on est en Christ, c'est qu'on est libre de la religion ou de tout ce qu'on devrait faire par nous-mêmes pour être sauvés. La première chose que Paul dit, c'est si Christ est mort, s'il est ressuscité, si c'est lui qui te donne le salut, si c'est lui qui te donne la vie, essaye pas de continuer à te sauver par toi-même. Et il y avait deux types de faux enseignements que Paul adresse ici, à laquelle étaient confrontés les chrétiens de Colosse. Premièrement, il y avait le légalisme des Juifs. Un peu plus haut, il n'est pas dans le PowerPoint ici, mais au verset 8, Paul parle de la tradition des hommes. Au verset 11, on a vu la semaine dernière, il parle de l'idée de la circoncision. Et on en comprend qu'il y a des gens qui demandaient aux chrétiens, qui étaient non-juifs, de maintenant, bien là, si tu crois en Jésus, il faut aussi que tu te fasses circoncire. Il faut aussi que tu obéisses les lois juives. Au verset 16, il parle de rites alimentaires, de choses à ne pas manger. De fêtes religieuses, le nouveau mois, la fête, le sabbat. Au verset 21, il parle de pureté. Il va dire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il y avait des gens, des Juifs, qui étaient devenus chrétiens, mais qui continuaient à croire et à enseigner que si tu veux vraiment être proche de Dieu, si tu veux vraiment avoir la faveur de Dieu, ce n'est pas suffisant de croire en Jésus, de lui donner ta vie. Il faut que tu fasses plein d'autres choses. Il faut faire les choses de la religion juive pour être pur, pour être saint. Et plus on en faisait, plus on a la faveur de Dieu. Hein, c'est en réalité, c'est un salut par les œuvres. On finit par mériter quand même notre salut. Et Christ est venu pour nous annoncer qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres œuvres. C'est ça l'Évangile, que nos œuvres ne sont jamais suffisantes. Qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous besoin d'un salut extérieur à nous. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner à la croix, hein? Le salut dont on avait besoin et qu'on ne pouvait pas mériter par nous-mêmes. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent dire aux chrétiens de Colosse que Jésus n'est pas pleinement suffisant. Ils ont besoin aussi d'obéir aux règles de la loi juive pour être sauvés. Hein, c'est un autre exemple de ce qu'on appelle les Jésus plus quelque chose. Jésus plus les œuvres. Jésus plus l'héritage ou les traditions. Hein, t'es-tu dans la bonne église, dans la bonne dénomination? Sinon, oh! Jésus plus les rituels. As-tu ça? Est-ce que t'es baptisé? Attention, il y a plein de choses du nom qui sont des bonnes choses, mais ce n'est pas des choses qui nous sauvent. Est-ce que t'es toujours à l'église? C'est bien d'être à l'église. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Est-ce que tu donnes toujours ta dîme? C'est bien de donner votre dîme. C'est excellent. Jésus va vous Dieu bénit ceux qui sont généreux. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Il y a des gens encore aujourd'hui qui sont dans ce mode-là. C'est bon, tu crois en Jésus, mais est-ce que tu fais tout le reste? Est-ce que tu es habillé correctement? Est-ce que tu crois dans le bon politicien, dans la bonne politique? Tu votes-tu pour le bon parti? Est-ce que tu as la bonne culture? Est-ce que ta vie est remplie de succès? Parce que sinon, oh, c'est peut-être que tu n'es pas vraiment sauvé. Est-ce que tu continues à grandir et à changer? Puis c'est bien de changer. Mais l'auto-amélioration, hein, je me transforme, je travaille sur moi constamment. Il y a des gens qui enseignent toutes ces choses-là. Si tu es sauvé, ça va se passer. Si tu es sauvé, tu dois faire ça. Ce que Paul dit, c'est Christ seul. Hein, il va même dire au verset 23, ils ont là une apparence de sagesse, car il indique un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur, ils ne servent qu'à la satisfaction personnelle. C'est pas ça qui nous change. Paul répond de deux manières. Premièrement, verset 17, il dit « Ce n'est que l'ombre des choses à venir. » Paul affirme que les lois de l'Ancien Testament, c'était que l'ombre des choses à venir. Et je vous explique. L'ombre d'un ami, ça indique qu'il s'en vient. Mais quand l'ami est là, l'ombre est plus suffisante. Et plus significative. Hein, si vous êtes en conversation avec la personne, ça serait étrange de regarder son ombre tout le long. On dit, ah oui, quand la personne est là. Et c'est ce que Paul est en train d'imager. Jésus projette une ombre cosmique et historique à travers les peuples, à travers les temps. Il est venu. Et donc, on n'a plus besoin de rien d'autre. Dieu n'a jamais voulu que les lois rituelles, les lois sacrificielles soient permanentes. Attention, je ne suis pas en train de dire que là, tu dis, bien là, d'abord, on élimine tout l'Ancien Testament. Il y a des révélations de Dieu que Jésus dit, ils sont bonnes. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est bon. Mais ce que Paul dit, c'est que les sacrifices de l'Ancien Testament, le sabbat, les rituels, c'était l'ombre des choses. Ça nous préparait à la venue de Jésus. Elle servait à démontrer une dévotion à Dieu et à révéler sa personne jusqu'à la réalité de Christ soit pleinement révélée. C'est pour ça que Jésus dit à la croix, tout est accompli. Donc, Paul dit, vous n'avez pas compris pourquoi c'était là. Si vous continuez à dire, j'ai besoin de ça pour être sauvé. Il dit, hein, ça ne change rien. Ils n'ont aucune valeur, c'est juste à la satisfaction personnelle. Juste, hey, regardez-moi, je suis spirituel. Mais est-ce que ça change ton cœur? Et on va le voir tantôt avec les choses que Paul nomme. Ça ne change pas toujours le cœur. Et donc, il y avait des gens qui étaient dans le légalisme, hein, dans les règles, les choses. Et il y avait des gens qui étaient dans une hyper-spiritualité. Et si le premier déclare que les chrétiens de Colosse ne sont pas assez stricts, ne sont pas assez dévoués, bien, le second dit qu'ils ne sont pas assez spirituels. Verset 18 et verset 23, verset 18, je vais le relire. Paul dit que personne, par son goût d'une fausse humilité, du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et au verset 23, Paul parle d'un culte volontaire, d'humilité, de mépris du corps. Et il y a l'idée, on se comprend ici qu'une idée d'ascétisme, hein, c'est-à-dire de privation, de jeûne extrême, de discipline du corps, de choses qui étaient faites dans le but de vivre un mysticisme. Hein, il parle de, il voit des visions. Et on comprend que c'est de la manière que Paul en parle, que ce n'est pas des vraies visions, là. Mais ils sont tous dans un rite pour vivre quelque chose de mystique. Là, ça nous parle du culte des anges. Et ce n'est pas clair si c'est littéralement une adoration des anges ou si c'est l'idée que, hey, les anges, de voir des anges partout, on adore les anges, adore avec nous, on fait ça, puis de toujours mettre l'emphase sur les anges. Mais dans tous les cas, pour Paul, hein, vous n'êtes pas sur Jésus, là. Hein, le plonger dans ses visions, c'est la recherche de faux surnaturel dans le but de paraître spirituel. Est-ce que ça vous fait penser à des gens? Ça n'a pas arrêté. Il y a encore des gens très légalistes, puis il y a encore des gens hyper spirituels. C'est bien, je veux des visions. Je veux des révélations de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Encore là, dans ce discours-là, Jésus n'est pas suffisant. Il faut atteindre un niveau de spiritualité, de mysticisme qui nous rend plus proche de la faveur de Dieu, meilleur que les autres. Et ces deux enseignements-là ne fonctionnent pas. Ils ne servent à rien. Hein, pour Paul, la solution pour discerner si un enseignement est vrai et simple, bien, c'est verset 19, c'est s'attacher à celui qui est la tête. S'attacher à Jésus. Paul continue, Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont en bas, sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il y a dans ce verset-là, hein, quatre choses que Jésus a fait et qui se passent dans nos vies. Il parle de « vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, hein, vous êtes monté avec Christ » parce que Christ est à la droite de Dieu. Et quand il apparaîtra, bien, vous aussi vous apparaîtrez glorifié. La question derrière ce point-là et tout ce qui s'en vient, c'est « d'où est-ce que vous êtes ?» D'où est-ce que tu es? À qui est-ce que tu appartiens? C'est qui ton roi? Dans Colossiens 1,13, Paul avait écrit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » On est citoyen d'un nouveau royaume. Et Paul dit, « Ça doit tout changer en toi. » Si j'ai changé d'allégeance, si je fais partie d'un nouveau royaume, si le vieux moi est mort et que je suis une nouvelle créature en Christ, ça doit se voir. Il doit y avoir des différences. Recherchez les choses d'en haut. Parce que là où il va, nous allons. Et Paul a dit, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, dans la même logique, s'il est en haut au ciel, nous y sommes aussi. C'est notre véritable demeure. Et plus on recherche les choses d'en haut, plus notre vie va être transformée et plus le ciel se révèle dans nos vies. Et ça ne signifie pas qu'il faut négliger toutes les choses de la terre. Mais ce qui est rattaché au royaume de ce monde doit disparaître. Il y a des choses qui doivent mourir dans nos vies. Hein, notre focus doit être sur les choses d'en haut. Regardons le verset 5. Colossiens 3, 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. » À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Paul présente une liste ici de choses qui sont rachetées à ce monde. Hein, des choses d'avant. Des choses qui ne sont pas d'en haut. Et soyons conscients que cette liste n'est pas complète et pas exhaustive. Et c'est plutôt le cœur derrière ces choses qui est le guide premier. Il dit, faites mourir ces choses. Si vous êtes, nous sommes morts en lui, comme on a vu plus tôt, bien, ce qui appartient à notre nature pécheresse terrestre doit aussi mourir. Il devrait y avoir un changement dans nos vies. Paul dit au verset 7, vous étiez comme ça avant, techniquement, vous n'êtes plus comme ça. Et mais il y a un travail. Hein? Faites donc mourir, on comprend que c'est un travail. Verset 5, Paul débute en nommant plusieurs choses qui sont reliées, entre autres, à une sexualité en dehors du mariage. Hein, l'immoralité sexuelle, dans le contexte ici, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. C'est des choses qui sont reliées dans le grec et dans les textes de Paul à la sexualité en dehors du mariage. Mais derrière ça, on remarque que toutes ces choses qui impliquent un désir de répondre à mes désirs, sans considérer Dieu, sans considérer les autres. C'est moi, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Dieu me dit d'attendre. Non, je n'ai pas le goût d'attendre. Dieu me dit, ça, c'est pas pour toi. Non, moi, je le veux. C'est à moi, je le veux, ça va me faire du bien. Et Paul va dire, tout ça, c'est une idolâtrie. Dieu déclare que tout ce que je cherche, c'est de répondre à mes besoins, à mes pulsions, mais je suis en train d'être idolâtre, d'avoir un autre Dieu. Je suis en train de mettre mes désirs comme étant plus importants que Dieu, comme étant la source de mon bonheur, de mon bien-être. Au verset 8, Paul adresse aussi des péchés qui sont reliés à la langue, hein, à nos paroles. La colère, la fureur, la méchanceté, les calomnies, ça c'est de dire des mauvaises choses à propos des autres. Les grossièretés, les mensonges, qui va dire un peu plus loin au verset 9. Oui. Mais des choses qui sont reliées à notre langue, à ce qu'on dit, à comment on fait mal aux autres. Hein, et dans les deux listes, on trouve des actions qui répondent à des pulsions, une impulsivité, un désir sans considérer Dieu ou sans considérer l'autre qui se retrouve à être victime de nos mauvaises actions. Et ce qui est à la racine de tous ces péchés, bien, c'est un refus de laisser Dieu diriger nos vies. C'est un désir de vouloir être autonome. Petite cours de linguistique. Autonome, ça vient du mot grec « auto » Nomos, qui veut dire ma propre loi. Nomos, c'est des lois. Donc, être autonome, c'est, puis à l'époque, ça s'appelait entre autres à une cité autonome, c'était une cité qui avait sa propre loi, qui n'avait personne d'autre qui lui donnait des lois ou qui lui disait quoi faire. Et donc, dans le contexte-là, de dire « je veux être autonome, je n'ai pas besoin de Dieu », c'est de dire « je veux ma propre loi ». Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'être dirigé, je n'ai pas besoin d'être guidé, je suis suffisant par moi-même, je suis mon propre Dieu. Hein, c'est le mensonge de Satan à Adam et Ève dans Genèse. Vous serez comme des dieux. Et tous les péchés, ce qui est profondément derrière ça, c'est une rébellion qui dit à Dieu, « j'ai pas besoin de toi, je suis meilleur ». Et Paul dit, ça, c'est ça les choses terrestres. C'est ça qu'il faut faire mourir. Mais il continue. Colossiens 3, verset 9. « Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à une vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » À l'image de enlever des vêtements sales et remettre des nouveaux vêtements propres. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ce qui doit motiver nos actions envers les autres, c'est de les voir comme Dieu les voit. C'est de voir chaque être humain comme une créature de Dieu créée à son image. Et c'est de voir chaque croyant comme une nouvelle créature. De réaliser que Christ est en chacun d'entre nous. Nous sommes tous saints et bien-aimés de Dieu, comme il va dire au verset 12, un peu plus tard. Quand on regarde les autres, qu'est-ce qu'on voit? Hein, Paul dit... Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs, il n'y a plus d'étrangers sauvages. Et là, les mots nous dérangent. Les mots grecs sont un peu différents. Il y aurait toute une explication que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais ni esclaves, ni hommes libres. Il dit, quand vous vous regardiez avant puis vous voyez toutes ces distinctions-là, vous regardiez les autres, vous dites, ah, il n'est pas comme moi. Mais il dit, c'est fini, ça. Quand vous vous regardez, voyez quelqu'un à l'image de Dieu. Voyez quelqu'un qui est aimé de Dieu. Paul est conscient qu'être chrétien, grandir comme disciple, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en étant isolé. Ça implique d'être ensemble, d'être en interaction avec les autres. Et l'Église, c'est plein de gens qui, soyons honnêtes, ne sont pas comme nous. Des fois, on réfléchit et je dis, « Hey, je ne serais pas ami avec ces gens-là si je n'avais pas connu l'Église. On ne se serait jamais rencontrés. » Ou si on se serait rencontrés, on a fait, « Ah non, il n'y a rien qui nous... attaches. Mais à cause de Christ en nous, ça nous rend ouverts à découvrir l'autre. T'es pas comme moi, mais j'ai le goût de te connaître. J'ai le goût de voir ce que Dieu aime en toi. Et d'aimer ça aussi. J'ai le goût d'être béni par toi. Le but de l'Église, c'est de rassembler plein de gens qui sont différents les uns les autres, mais qui sont unis en Christ. Alors, Paul va nous expliquer comment vivre en harmonie. Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, en tant que choisis par Dieu, saints et bien-aimés, c'est comme ça qu'on doit voir les autres. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. » Supportez-vous les uns les autres. Hein? Pas juste dire, « Ah, il est bien gossant, je vais le supporter. » Pas tolérer, mais supportez-vous, relevez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa sagesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole et en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Petite remarque. Le seul moyen de vivre ce qu'on est appelé à vivre ici, en tant que chrétien, bien, c'est d'être en relation avec d'autres chrétiens. Ce texte s'adresse à des chrétiens qui interagissent avec d'autres chrétiens. C'est impossible de vivre ces sentiments, ce support, ce pardon, cet amour, seul. C'est impossible à vivre si vous arrivez, vous faites qu'arriver à la dernière minute le dimanche et à repartir aussitôt que la réunion finit. Si vous voulez vraiment vivre l'Évangile, vivre la parole de Dieu, vous devez être en relation avec d'autres chrétiens. Vous devez avoir des moments où vous pouvez interagir, communiquer, partager et être en relation. Et je ne dis pas ça ce matin pour condamner, mais je dis ça pour nous défier. Parce que je pense que chacun d'entre nous, on a besoin d'être davantage avec d'autres croyants. Pour se fortifier les uns les autres, pour se consoler, se défier, s'encourager, s'aimer, se pardonner les uns les autres. Afin de pouvoir exprimer nos dons spirituels aux autres et recevoir ce que Dieu veut nous donner à travers les autres. Ça va juste se vivre si on a une vie de communauté. Paul nomme plein de choses, hein? Compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Verset 15, il va nous parler de la paix, que la paix de Christ soit dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Tellement de choses qui changeraient si la paix et la reconnaissance étaient dans nos cœurs. Si, quand on faisait de la gestion de conflit, on commençait par dire « Nomme-moi une chose pour laquelle tu es reconnaissant pour ton frère. » De quoi est-ce que tu es reconnaissant pour ton épouse? Ça change un petit peu notre... Quand on nous oblige à être reconnaissant, ça fait voir, ça change nos perspectives. « Ah oui, mais il y a ça de bon. Ah oui. » Verset 16, hein, Paul parle de s'avertir et de s'instruire les uns les autres. Et notez qu'il ne s'adresse pas seulement aux dirigeants. Il n'est pas en train de dire que vos dirigeants vous instruisent et vous avertissent. Il parle à tous les croyants. Tous les croyants, on est appelés à s'instruire, à s'avertir mutuellement. En le faisant, c'est marqué avec sagesse, avec amour. Et je trouve ça surprenant que Paul propose un moyen qu'il propose de le faire. Il dit comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En chantant. Avez-vous déjà instruit quelqu'un en chantant? Je crois que chaque dimanche, quand on chante, oui, on loue le Seigneur, mais on s'instruit nous-mêmes aussi. C'est pour ça que c'est important que nos paroles, nos chants soient remplis de la parole de Dieu, de l'Évangile, des vérités de la Bible. Pas juste un moment de divertissement. Il y a quelque chose dans la Bible par rapport que Dieu a créé l'être humain par rapport à la musique, au chant, qui touche une partie différente de notre cerveau. Avez-vous réalisé le nombre de chants que vous connaissez par cœur? Quand on commence à le chanter, puis soudainement, vous vous mettez à chanter, vous êtes seul, vous mettez à chanter, puis les paroles sortent tout seules. Il n'y a pas grand-chose que je connais par cœur que les chants de l'Église. Parce que mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, je serais intéressé de voir des études, mais je pense que notre cerveau enregistre les chants d'une manière différente que les autres choses. Et que ça ressort quand on vit des moments difficiles, on a besoin que Dieu nous parle, on se met à chanter, puis ah oui, c'est vrai. Et Paul nous encourage à chanter. Verset 17. Que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Agir au nom de quelqu'un, ça signifiait de représenter cette personne et d'agir avec son autorité. Les soldats romains agissaient au nom de l'empereur. Au nom de Jésus, ce n'est pas juste une parole magique qu'on dit, puis soudainement tout s'accomplit. Ça signifie qu'on est ses représentants. Et c'est toute une mission. On fait tout au nom de Jésus. Si les chrétiens s'arrêtaient un instant et se demandaient s'ils représentaient Jésus par tout ce qu'ils font, en public et en privé, est-ce qu'on serait fiers? Est-ce qu'on continuerait? Non, pas toujours. Nous représentons Jésus. La Bible va dire ailleurs que nous sommes ses ambassadeurs. Quand les gens nous regardent, c'est Jésus qu'ils voient. C'est Jésus qu'ils questionnent. Ils sont comme, si Jésus est vrai, puis que cette personne-là dit que Jésus a changé sa vie, est-ce qu'elle a vraiment changé? Et nous observe beaucoup plus qu'on pense. Fais tout au nom du Seigneur Jésus. Paul va écrire plus loin, on va le relire tantôt, mais versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage comme récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est toute une éthique de travail qu'on retrouve ici. Faites de tout votre cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Et ce qui est surprenant, c'est que Paul va s'adresser ici à des esclaves. Le texte, on va le voir tantôt, il parle à des esclaves et il dit « Faites tout comme pour le Seigneur, de tout votre cœur. » S'il y a des gens qui auraient une bonne raison de mal faire les choses, c'est des esclaves. Mais Paul leur dit « Vous êtes quand même des représentants de Christ. » Est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes ou est-ce qu'on fait les choses pour se débarrasser, pour terminer le plus rapidement et ensuite faire ce qui nous plaît vraiment? Hein, quand on fait le ménage parce qu'on nous a dit « il faut faire ça », puis t'es comme « mais j'ai autre chose à faire qui est plus intéressant ». Puis on balaye en dessous, on lève le tapis, on met le linge sale dans le garde-robe, quelqu'un d'autre règle ça. Les ados sont pas là, malheureusement. C'est pour eux que ça s'adresse surtout. Non. Imaginez si Dieu avait la même éthique de travail que nous avons parfois quand il est venu sur la terre. Si Jésus avait mis les mêmes efforts à guérir, à enseigner, à nourrir, à prendre soin d'eux que nous, on met pour faire les choses. Puis il avait dit, « Ouais, mais j'ai pas le goût, ça. » Tout ce qu'on fait, on le fait en tant que représentant de Jésus. Et ça doit changer quelque chose dans nos vies. Colossiens 3, verset 18. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. On fait un survol, hein, parce qu'on aurait pu parler de chaque chose pendant deux semaines. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres et non seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Chapitre 4, verset 1. « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. » Et là, on comprend le verset d'avant. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Paul va prendre ici l'exemple de la vie familiale et nous montrer comment une vie où Christ règne, ça change tout. Et pour bien comprendre ce que Paul essaye de dire et ce qu'il ne dit pas, il faut comprendre premièrement certaines choses de la vie de l'époque. Un, dans le monde grec et romain, hein, les philosophes et les penseurs passaient beaucoup de temps à réfléchir, à enseigner sur ce qui constituait la bonne vie. Et dans leur réflexion, ils abordaient entre autres le sujet de ce qui est un bon milieu familial dans ce qu'ils appelaient le code du foyer. C'est quelque chose qu'on retrouve chez plein de philosophes de « voici comment une famille devrait être ». Et ça s'adresse toujours au père. Les philosophes parlent à personne d'autre que le maître de la maison, le père. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est quelque chose de courant. Et Paul va utiliser le même code. Il utilise une forme semblable, mais il change totalement ce qui est inclus dedans. Autre chose à savoir, dans le monde ancien, une famille, un foyer, c'était pas juste papa, maman, des enfants. Ça pouvait inclure 3-4 générations, plus des serviteurs et des esclaves. À l'époque, la vie sans esclaves, c'était inconcevable. Hein? À Rome, on dit que c'est à peu près 50% de la population qui est esclave. Ça fait partie de leur économie. Et on va y revenir tantôt, on va regarder particulièrement le verset 22, 23 jusqu'au chapitre 4. Mais c'est important de réaliser, dans la maison, il y a plein de sortes de gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et finalement, dans l'Empire romain, bien, les femmes, les enfants et les esclaves n'ont aucun droit. En fait, ils sont des possessions. Légalement, ils appartiennent au maître de la maison, qui est le mari, le père, l'homme. Celui-ci a même droit de vie ou de mort sur eux. On part de loin, hein? Et donc, c'est très surprenant que Paul démontre, premièrement, du respect pour les femmes, les enfants et les esclaves. Hein, Paul reconnaît qu'on est tous à l'image de Dieu. Il voit des femmes, des enfants, des esclaves qui se convertissent, qui sont utilisés par Dieu, qui servent dans le royaume. Et Paul s'adresse à eux dans son code, dans ses instructions pour la famille. Il ne s'adresse pas seulement à eux, il s'adresse à eux en premier. Dans chaque diade de versets, c'est « femme, mari, enfant, père, esclave, maître ». Surprise numéro 2, l'homme n'est pas appelé à donner des ordres. Ça ne dit pas « homme, soumettez vos femmes ». Parents, obligez vos enfants à vous obéir. Maître, forcez vos esclaves. L'homme n'est pas appelé à forcer les autres à faire comme il veut ici. Il est appelé à aimer, à ne pas exaspérer, à être juste et équitable. Oh, le défi vient de changer, là. C'est pas « ouais, c'est facile, servez-moi ». Il est où le repas? Non. J'aime. Je m'assure de ne pas exaspérer. Je suis juste et équitable. Surprise numéro 3, c'est le Seigneur qui est au centre de tout. En femme, soumettez-vous comme il convient dans le Seigneur. Enfin, que c'est agréable au Seigneur. Faites comme pour le Seigneur. C'est toujours Dieu qui est au centre. C'est Christ qui est au centre de tout. Et Paul le rappelle dans toutes nos interactions, c'est ça qui doit régner. Très rapidement, la soumission, ça ne signifie pas l'obéissance ou une infériorité. La soumission, c'est l'acceptation volontaire d'une personne égale à un leadership, à une direction d'une autre personne égale. C'est se mettre littéralement sous la même mission. Comme Christ se soumet à son Père. Comme on est appelé dans les Écritures à se soumettre les uns aux autres. Et c'est jamais dans la Bible au mari de demander la soumission. Hein, la soumission, c'est pas une obéissance aveugle qui accepte l'abus physique, sexuel, psychologique ou qui implique de désobéir à Dieu. C'est d'accord, on s'en va dans la même mission. Je travaille avec toi. Je travaille sous ton leadership. Verset 19, quand Paul dit au mari d'aimer, hein, c'est l'amour agapé. C'est un amour sacrificiel, un amour qui se donne complètement à l'autre. C'est l'amour que Jésus, que Dieu a envers nous. En verset 20 et 21, quand les enfants sont appelés à obéir, oui, mais les parents sont appelés, les pères sont appelés à ne pas exaspérer, à être doux, à être patient dans leurs demandes, dans leur ton. Et c'est ça qui rend l'obéissance plus facile. On n'est pas dans une attitude qu'on veut se rebeller. Une attitude d'un parent qui dit, « Viens, on travaille ensemble. Viens, je veux t'accompagner. » Verset 22 avec 4:1, Paul parle d'esclavage. Je prends un petit moment juste pour en parler. Le but de Paul ici, ce n'est pas de justifier l'esclavage. Paul est conscient que c'est une réalité de son monde dans lequel il est. Mais comme on va le voir, Paul cherche à changer totalement la relation. Déjà qu'il s'adresse aux esclaves, c'est nouveau. Les esclaves étaient souvent mis de côté, ignorés. Mais Paul s'adresse à eux, il les inclut dans le corps de Christ. Il leur promet un héritage pour récompense. Hein? Les esclaves, eux, n'avaient pas d'héritage. C'était les fils qui avaient un héritage. Et Paul dit qu'en Christ, vous avez un nouveau statut, vous avez un héritage. Et quand Paul s'adresse aux maîtres, bien, c'est pour leur dire d'être juste et équitable, de voir leurs esclaves comme des êtres humains, comme des créatures de Dieu, et réaliser qu'eux aussi ont un maître, et de prendre l'exemple de Dieu comme maître. Et au verset, hein, on va avancer, mais Colossiens 4, versets 7 et 8, Paul, dans ses salutations, salue deux personnes particulièrement. Il dit, « Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me, concerne. » Tychique, c'est lui qui transporte la lettre. Et il dit, « Il va répondre à vos questions. » Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Verset 9, je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe. Onésime, et si vous êtes intéressé par l'histoire, lisez le livre suivant qui est Philémon. Onésime, c'est un esclave. Philémon, c'est un chrétien de Colosse qui avait un esclave, Onésime. Et un jour, Onésime fuit son maître, probablement avec de l'argent. Et dans sa fuite, il finit par rencontrer Paul, il devient chrétien. Petit fait intéressant, fuir un esclave qui fuyait, en plus de voler, la conséquence, ça pouvait être la mort. Philémon aurait eu le droit de demander la mort d'Onésime. Mais Paul renvoie Onésime avec une lettre, qui est la lettre à Philémon, et il renvoie. Et il dit le mot ici, hein, je vous l'envoie, le fidèle et bien-aimé frère. Il ne dit pas l'esclave en fuite. C'est les mêmes mots que pour Tychique. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Paul demande à Philémon et aux chrétiens de Colosse de l'accueillir comme un frère, pas comme un esclave, pas avec un désir de vengeance, mais un désir d'amour. Et c'est tout un changement, toute une révolution dans les relations qui se mettent en place quand Dieu est avec nous. Quand c'est lui qui règne dans nos vies. J'ai invité les musiciens. Je vais vous inviter, si vous intéresse, à lire le chapitre 4 pour vous. En réalité, c'est une grosse salutation. Mais pour continuer sur cette idée de Paul qui accepte l'un et l'autre, je vais juste lire à partir du verset 10. Et vous allez voir, c'est juste une salutation de Jean, mais après, je vous explique pourquoi. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. Il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été d'un grand encouragement pour moi. Paul parle ici de trois Juifs qui travaillent avec lui, hein, les circoncis. Entre autres, il y a Marc. Marc, c'est un avec qui, si vous lisez les Actes des Apôtres, il s'était chicané auparavant. Ça avait une chicane assez grosse que Paul et Barnabas se sont divisés, sont partis chacun de leur bord. Et là, oh, il y a eu réconciliation. Paul nous a parlé de pardon, bien, il l'a pardonné. Verset 12, « Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage et se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » On avait trois juifs, ici on a trois non-juifs. Luc, c'est celui qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et je lisais que Luc et Démas sont probablement des anciens esclaves. Les différents indices qu'on a de ça, c'est un, ils ont des petits noms. C'était souvent quelque chose qui était davantage aux esclaves. Mais aussi, à l'époque, les médecins, c'était souvent des esclaves. Les gens de haute société étaient trop riches et trop nobles pour travailler avec des malades. Les gens pauvres, libres, n'avaient pas les moyens de faire les études. Et donc, c'était souvent, les hommes riches prenaient un de leurs esclaves intelligents, ils disaient, oh, il y a du potentiel. Et ils le faisaient former comme médecin. Comme ça, il y avait un médecin autour d'eux. Et si Luc est un médecin, c'est un indice de plus que c'est probablement un ancien esclave. Et donc, Paul est constant avec ce qu'il enseigne. Paul traite, il y a autour de lui des juifs, des non-juifs, des anciens esclaves, des gens de plein de sortes, il y a Onésime, il y a des gens de plein de milieux. Il les traite comme des frères, comme des sœurs. Tous égaux dans le Seigneur. C'est la lettre aux Colossiens. On l'a presque toute lue ensemble. Mais c'est un texte qui nous rappelle que Christ est celui qui règne. Christ règne sur l'univers, sur la terre, sur l'Église, sur nos vies. Il est celui qui nous donne la vie, celui qui nous sauve, celui qui nous transforme, celui qui fait des êtres nouveaux. Et parce qu'il est en nous, nos vies sont transformées, nos attitudes sont changées, nos comportements sont régénérés. On est maintenant motivé par l'amour, par une nouvelle vision des autres, par une compréhension de qui ils sont. Et ça doit tout changer. Et notre défi cette semaine, bien, c'est de méditer ça. C'est d'y réfléchir. C'est de regarder nos vies, regarder nos cœurs, regarder nos attitudes et laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous montrer ce qui doit mourir, ce qui doit augmenter, ce qui doit changer par sa puissance. Et je vous invite ce matin, en terminant cette réunion, et vraiment, au cours de la semaine, à dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer en moi? Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit prendre la place? À prier cette prière de David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, je te prie de te révéler à nos cœurs ce matin. Seigneur, que ce ne soit pas juste des mots, mais que ce soit une épée qui vienne enlever ce qui doit mourir, qui vienne ouvrir nos yeux à des comportements qui doivent changer, à des attitudes qui doivent changer, qui Viens nous remplir de patience, d'amour, de compassion, d'humilité, de bonté, de pardon, de paix, de reconnaissance. Seigneur, que la vie que tu mets en nous jaillisse et transforme chaque partie de notre être. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.